au puits de Jacob. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Le sacrement du pardon, deuxième émission, comment se préparer au sacrement du pardon ? En cette année de la miséricorde, il est important de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu à notre égard, dans le sacrement de pénitence. Mais comment se préparer à cette rencontre ? C'est ce que nous allons voir avec le père Raphaël Sant'Agostini. Bonjour père.
Bonjour Anne.
Avant toute chose, faut-il se confesser régulièrement et que nous dit l'Église à ce propos ?
Oui, il faut se confesser régulièrement, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Se confesser régulièrement, ce que demande l'Église d'abord, et puis après on verra le pourquoi. Ce que demande l'Église, c'est au moins une fois par an. On utilisait autrefois l'expression « faire ses Pâques ». Faire ses Pâques, c'était se confesser et aller à la messe à Pâques. C'est une très ancienne habitude que l'Église nous demande. Mais aussi, et si on dépasse, si on essaie de faire un peu plus, l'Église encourage à se confesser une fois par mois. Parce que c'est dans le sacrement de réconciliation une pratique régulière qui nous fera nous rapprocher du Seigneur et grandir dans la foi. Cela, c'est pour la loi. Mais à un moment, nous sortons aussi d'une conception légaliste. Ce n'est pas juste « il faut que je me confesse parce qu'on me le demande » ou « parce que je le dois », mais « parce qu'il est bon ». Et alors, sans doute que c'est à chaque personne de se dire « qu'est-ce qu'il est bon ?» pour ma foi, pour moi-même et pour le salut de mes frères, de vivre. Alors de vivre le sacrement de réconciliation, mais avec quelle fréquence ? Se poser cette question et se tenir à une fréquence. C'est peut-être cela qui est le plus déterminant. Mais en tout cas, pas moins d'une fois par an, ça semble évident.
Est-ce que se confesser est la même chose que de rencontrer son père spirituel ?
Alors la frontière peut être parfois un peu poreuse, mais non, ce n'est pas la même chose. La confession est un sacrement, une liturgie que l'on célèbre, qui n'a pas tout à fait la même coloration que la liturgie à laquelle on est le plus habitué, c'est-à-dire la messe, parce que c'est une liturgie où l'acteur de la liturgie est le pénitent, le fidèle qui vient se confesser. Cela, ça nous sort un peu du mouvement liturgique habituel, mais ça reste profondément un acte liturgique marqué du début à la fin par ce que l'Église demande d'accomplir dans le rituel. Donc forcément, ce n'est pas la même chose que l'accompagnement. L'accompagnement qui est plutôt de l'ordre de la discussion entre celui qui est accompagné et son accompagnateur, qui n'est pas forcément un prêtre d'ailleurs, pour grandir dans la foi en relisant sa vie. Voilà, ce n'est pas tout à fait du même ordre. Un sacrement ou alors une discussion pour grandir.
On parle d'examen de conscience. Est-ce qu'un examen de conscience journalier, comme au fond nous demande un peu l'Église, peut nous aider à préparer le sacrement du pardon ?
Oui, tout à fait. En tout cas, ça nous rendra le sacrement plus naturel dans notre vie spirituelle. Alors l'examen de conscience, ce n'est pas l'occasion pour nous de préparer notre confession au sens où, par exemple, je noterai les péchés que j'ai identifiés pour être sûr de ne pas les oublier. Et quand j'irai voir mon confesseur, j'apporterai mon carnet sur lequel je recense jour après jour ce que j'ai fait de mal. Ça serait un peu mortifère. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça nous habitue à relire notre vie. Relire notre vie pour identifier ce qui est de l'ordre de l'amour d'ailleurs. C'est par cela que commence l'examen de conscience. Par voir dans l'action de Dieu dans notre vie, par un acte de louange. Et vous savez que l'examen de conscience fait partie d'un office de la liturgie des moines qui est les complis. Que se passe-t-il dans le mouvement des complis ? On commence par l'examen de conscience, on relit notre journée pour rendre grâce parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a été présent dans ma vie, il a agi avec puissance, même si j'ai du mal à le voir. Et alors, constatant cela, l'amour de Dieu qui me poursuit jour après jour, je constate ma propre incapacité à aimer suffisamment. Et alors, je demande pardon à Dieu pour mon péché. Ça, c'est l'examen de conscience que je peux faire et que j'encouragerais fortement à vivre chaque jour. Mais pas juste confesser mon péché. Commencer par cet acte de louange, reconnaître l'action de Dieu dans ma vie avant de voir ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour, ce qui est de l'ordre du péché dans ma vie.
Autrefois, on aidait les pénitents en leur distribuant des fascicules faisant l'inventaire des péchés. Cette pratique a été décriée, on peut se demander pourquoi. Et pourtant, n'aidait-elle pas les pénitents ?
Alors peut-être que c'était une aide, mais il faudrait faire attention à bien l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelait ces examens de conscience déjà tout faits nous ouvrent à une tentation. Une tentation dans le sacrement de la réconciliation, c'est ce que j'appelle la tentation de la liste, où je liste mon péché, je liste mes transgressions pour me mettre au clair avec Dieu, pour me faire pardonner, et puis, vous voyez, de l'ordre de la loi, de l'ordre de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le sacrement de la réconciliation, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste que j'ai fait ce qui était interdit, c'est que j'ai blessé l'amour. J'ai blessé l'amour que Dieu me porte en la refusant, et j'ai blessé mes frères en refusant de les aimer autant que j'y suis appelé au titre de mon baptême. Alors, oui, une feuille pour nous aider à préparer, mais attention à ce que ça ne soit pas juste cocher des cases. Ah oui, ça c'est moi, ça c'est moi, ça ce n'est pas moi. Mais bien que ça soit mis en récit avec ma vie, avec le fait, cette conscience aiguë que Dieu m'aime. Et alors, cette feuille peut me donner des idées. Mais ça n'empêche pas que c'est moi qui formulerai mon péché face à ce décalage de l'amour de Dieu.
Alors, la recherche de nos péchés en direction de trois pistes, que l'on voit justement sur ces fameux fascicules, Dieu, nous-mêmes et les autres, vous paraît-elle quand même cependant pertinente ?
Ah, tout à fait. Plus que pertinente, c'est ce que j'explique toujours aux jeunes. Je leur explique que pour connaître notre péché, il est en 3D. Alors, il faut mettre ces lunettes 3D. Vous savez, ces lunettes qu'on a au cinéma pour voir l'image en trois dimensions. Eh bien, c'est la même chose avec notre péché. Il est en trois dimensions. La dimension verticale, le péché envers Dieu. La dimension horizontale, le péché envers nos frères. Et puis la profondeur, cette troisième dimension, qui est le péché envers nous-mêmes. Alors oui, bien sûr, c'est un moyen un peu tout-terrain, j'ai envie de dire, si on n'a pas une parole de Dieu à sa disposition, si on rentre dans une église et on voit qu'il y a des personnes en train de confesser, et on se dit, je veux aller me confesser, mais je n'ai pas forcément de Bible pour lire la parole de Dieu pour m'y préparer, ou autre, ce moyen marche toujours et moi j'avoue que personnellement je l'utilise, bien sûr.
Alors est-on obligé de tout dire ? Ne peut-on pas accentuer tel aspect de notre confession ? À quoi bon en effet vouloir tout de suite se convertir dans tous les domaines ?
Eh bien j'espère qu'on a le désir de se convertir dans tous les domaines en allant se confesser parce que c'est une des conditions pour lesquelles on y va d'ailleurs. C'est qu'on reconnaît notre péché, que le péché est un scandale dans le plan de Dieu est un scandale parce qu'on se blesse nous-mêmes. Et donc, je confesse ce péché et tout mon péché. Par contre, il y a sans doute par rapport à certaines périodes de ma vie où, je ne sais pas, un enseignement que j'aurais entendu ou une parole de Dieu qui m'habite davantage le cœur aujourd'hui, sans doute y a-t-il une composante de mon péché qui va être plus saillante, qui va jaillir davantage et que je vais peut-être passer plus de temps à confesser au Seigneur par l'intermédiaire du prêtre. Cela, oui, les accents changent. Mais je pense qu'il faut continuer à tout dire parce que tout péché, dans l'ordre de Dieu, est un scandale et que Dieu veut nous débarrasser de tout péché. Même celui qui nous paraît évident, ça a beau être évident, ça va toujours mieux en le disant.
Alors, est-ce qu'il faut donner les circonstances du péché ou est-ce qu'on peut rester dans des généralités ou rentrer davantage dans les circonstances et ce que l'on a fait ?
On peut donner quelques détails, ce n'est pas possible, ça peut même être bon, à chacun de discerner. Évitons toute confession qui remettrait trop en cause mon frère, je ne suis pas obligé de dire le péché de l'autre en confessant mon propre péché, ça peut être une tentation. Je ne suis pas obligé de donner les noms des personnes que j'ai blessées.
Et trouver des circonstances atténuantes.
Et je n'ai pas à chercher de circonstances atténuantes. Vous savez, c'est mon père, je me confesse de... Mais il faut dire que... Je confesse mon péché. Mon péché, même s'il a toutes les circonstances atténuantes, ce n'est pas ça que je viens confesser. Après, si je demande un conseil, c'est autre chose. Mais voilà, ne pas rechercher ça et effectivement essayer de... non pas de détailler notre péché, c'est pas ça dont il s'agit, mais que ça soit quelque chose de concret de notre vie, un manque de charité dans notre vie, c'est cela un péché, que je confesse et pas juste une idée désincarnée. Je reviens à ce que vous disiez sur les listes, la liste dont on coche les cases. Non, c'est un acte de ma vie que je confesse. Alors, il peut être bon de donner quelques détails, pas tous les détails.
Parfois, nous ne voyons pas la différence entre ce qui est psychologique et le péché. Tout ce qui relève, par exemple, de l'addiction, ne relève-t-il pas davantage du psychologique? Et est-ce que j'ai, de ce fait, à l'accuser?
Alors oui, bien sûr, il faut que je confesse ce péché-là, parce que ça demeure un péché. Prenons l'exemple du fumeur qui est accro à sa cigarette. Bien sûr, il peut confesser ce péché. Il doit d'ailleurs confesser ce péché-là parce qu'il préfère... Il a une addiction qui est une autre addiction que le Seigneur, j'ai envie de dire. Et en plus, il s'abîme la santé. Il ne s'aime pas suffisamment pour pouvoir arrêter. Ça, c'est clair. Après, la question de l'addiction met en place la question de du psychologique. On a tendance parfois à ce que le psychologique prenne toute la place et que ça soit comme un frein à reconnaître le péché ou alors à reconnaître que j'y ai engagé ma liberté. Toute addiction a commencé par l'engagement de sa liberté dans cette addiction-là. Après, on ne la maîtrise pas forcément. Et pour quelqu'un qui la confesse, le péché demeure un péché. Par contre, sa responsabilité vis-à-vis de ce péché-là n'est pas engagée de la même manière. Peut-être qu'elle a été engagée davantage les années précédentes quand cette addiction s'est installée, mais après, sa responsabilité est moins engagée, ce qui ne veut pas dire, je le répète, qu'il ne faut pas le confesser et ce qui ne minimise pas le péché.
Simple désir.
Vous suivez l'émission Au Puits de Jacob. Comment se préparer au sacrement du pardon avec le père Raphaël? On entend aussi souvent cette objection. Oh, tout le monde le fait, alors c'est pas bien grave. Comme si le poids de la société nous empêchait, en fin de compte, de rechercher notre péché.
Oui, on peut entendre ça, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il y a en chacun d'entre nous, en moi y compris, le fait de se sentir peut-être moins pécheur, ou plutôt, ce serait plus juste de dire comme ça, de moins sentir le scandale de notre péché parce qu'il est partagé. Jean-Paul II parlait, lui, de structure de péché pour certaines choses où la société nous entraîne à commettre ce péché-là et nous empêche d'avoir conscience du poids de ce péché. Alors oui, cela peut arriver. Demandons-nous toujours si la gravité de mon péché, quelle est la gravité de mon péché, et pas en fonction des autres. Non, en fonction de ce que je suis, moi, en fonction de l'amour que Dieu me porte. Et alors, je m'aperçois que le péché, d'abord, est toujours grave, mais que la gravité du péché n'est pas facteur de la gravité du péché des autres, même s'ils commettent le même péché.
Alors, comment découvrir le péché qui fait vraiment obstacle à mon union à Dieu? Parce que c'est ça la définition du péché.
Oui, effectivement. Vous savez qu'il y a 7 péchés capitaux, par exemple, pour partir par là. Et il y en a sans doute, parmi ces 7 péchés capitaux, non pas que c'est les plus importants en termes de gravité, mais parce que c'est les péchés qui sont des portes d'entrée à d'autres péchés. Eh bien, dans ces 7 péchés capitaux, il y en a qui ne vont pas me poser de problème en tant que tel. Ou les combattre, c'est même pas un combat parce que je ne suis pas tenté. Mais il y en a d'autres. Quelle difficulté à les affronter. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui me font chuter. Et effectivement, c'est toujours les mêmes qui me font chuter. Alors, c'est cela qu'il faut réussir à identifier. Quelle est, j'ai envie de dire, la porte d'entrée, ou plutôt la faiblesse de mon âme, dans la lutte contre le péché? Quelle est la brèche? Et l'identifier pour pouvoir la combattre. Peut-être que je ne peux pas la réparer, cette brèche-là, d'ailleurs. Mais au moins l'identifier, pour identifier ce péché-là, et non pas combattre cette faiblesse que j'ai, mais combattre les occasions de chuter. Oui, ça, c'est extrêmement important, et je rajouterais que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, alors. Parce que ce péché-là, je n'en ai pas forcément conscience, et il faut que je demande au Seigneur de me le révéler.
Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui n'a pas l'impression d'être pécheur?
Quelqu'un qui n'a pas l'impression d'être pécheur, eh bien, je lui dirais que c'est peut-être là son premier péché. C'est de ne pas arriver à voir son péché. Ou plutôt, le péché, j'aime bien le qualifier comme cela. Je ne sais pas si c'est extrêmement juste théologiquement, mais c'est assez éclairant. Le péché, c'est la conscience du décalage entre l'amour absolu de Dieu et ma faible capacité d'aimer. Alors, à chaque fois que je n'aime pas suffisamment, c'est le péché qui vient se loger là, entre guillemets. Et mon amour, qu'on appelle la charité, c'est-à-dire aimer comme Dieu aime, aimer selon le cœur de Dieu, il n'est pas absolu. Il n'est pas absolu, il a des faiblesses. Et au contraire, il y a des fois où je choisis de ne pas aimer, volontairement. Et si je n'arrive pas à le voir, alors que ça me semble une évidence que c'est présent dans chaque vie, si je n'arrive pas à le voir, demandons au Seigneur qu'il me le révèle. « Mon péché, tu le connais », dit le psalmiste.
Alors, comment me préparer intérieurement à cette rencontre avec Dieu? Et faut-il même avoir une contrition, même imparfaite?
Ah, la question de la contrition est une bonne question. Mais avant cela, comment se préparer? C'est la grande redécouverte du rituel du sacrement de la réconciliation, d'après Vatican II, c'est qu'on se place sous la parole de Dieu. C'est la meilleure des préparations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je ne me prépare pas en me disant « Bon, qu'est-ce que je vais dire au prêtre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est pas ça la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est que c'est un temps de prière que je fais pour faire la lumière sur ma vie face au Seigneur. Alors, je commence par demander l'aide du Seigneur. Et une fois que j'ai demandé l'aide du Seigneur, j'ai demandé son Esprit Saint pour m'éclairer, je contemple le Christ. Il y a un certain nombre de textes de la parole de Dieu que je peux lire et qui m'aide à me préparer. Je ne sais pas, on peut penser aux béatitudes, on peut penser aux 10 commandements, on peut penser, voilà, à la femme adultère, on peut penser à la samaritaine. Il y a une multitude de textes qui disent la miséricorde de Dieu, ce cœur aimant de Dieu qui se penche sur l'homme en la personne de Jésus. Eh bien, je lis un de ces textes et je constate l'amour absolu de Dieu et ce décalage avec ma capacité d'aimer. Voilà, là, je suis dans l'attitude intérieure pour me préparer et je peux m'atteler à cette tâche. Quel est le péché que je veux confesser, c'est-à-dire dont je veux que le Seigneur m'arrache du cœur. La parole de Dieu, mettre la parole de Dieu au cœur de notre préparation. Et pourquoi pas que cette préparation, elle n'a pas forcément besoin d'être juste avant de se confesser. Elle peut être faite un peu en amont, et je peux noter par exemple sur un papier, que je garde précieusement et que je ne montre pas bien sûr, mais sur un papier les péchés que j'aimerais confesser, si ma préparation, je n'ai pas eu le temps dans ma journée. Autre que le matin, par exemple. Et après la confession, bien sûr, toujours brûler ce papier-là.
Alors je reviens à ma contrition, même imparfaite.
La contrition imparfaite. La contrition, c'est le fait de regretter notre péché. C'est le fait d'avoir une conscience vive du décalage entre l'amour de Dieu, l'amour que Dieu me porte, et mon péché. C'est cela la contrition. Et cela, c'est une souffrance de la vie spirituelle que de constater à quel point Dieu m'aime et à quel point moi je ne l'aime pas suffisamment. Alors, c'est ce mouvement de contrition que provoque en moi le péché, où j'ai besoin de le replacer face à l'amour de Dieu. Comme disait sainte Thérèse, je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Voilà, c'est ça en fait la contrition. Être sûr que toutes mes offenses soient une goutte d'eau dans ce brasier ardent de l'amour de Dieu. Alors, ce péché, je le déteste. Je le hais, mon péché, dit le psaume. Alors, je le perds, je le lâche dans ce brasier ardent qu'est l'amour de Dieu. Et Dieu vient m'en ôter. Voilà ce que c'est que la contrition. Alors, parfois, j'ai peut-être l'impression de ne pas regretter suffisamment mon péché. D'avoir du mal à dire cette phrase de l'acte de contrition, justement, je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser, puisque tout péché est une offense à Dieu, et de faire pénitence. Je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser, alors que je demeure pécheur et que je vais continuer, je vais pécher sans doute, à nouveau, même après le sacrement de réconciliation. Mais ce péché, je l'ai en horreur et je désire au plus profond de moi-même ne plus pécher pour être enfin capable d'aimer Dieu et d'aimer mes frères autant qu'il m'aime.
Et pour terminer, est-ce qu'il ne faut surtout pas revoir dans le prêtre, au fond, le Christ et le regard du Christ qui me pardonne ?
Tout à fait. Et je pense que vous avez déjà remarqué ça et que tous ceux qui se confessent régulièrement connaissent bien cette formule. Que dit le prêtre pour l'absolution ? Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Et là, ça fait tilt parce que vous savez bien que dans la Bible, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les pharisiens... veulent faire violence à Jésus, c'est que nul ne pardonne les péchés sinon Dieu. On le sait bien. Et quand le prêtre dit ça, bien sûr, ce n'est pas le prêtre qui pardonne les péchés. C'est le Christ lui-même qui pardonne les péchés de la part au nom du Christ. On dit in persona Christi, en vertu de pouvoir qui a été donné à l'ordination de remettre les péchés.
Ce sacrement du pardon, c'est le sacrement de la joie ?
Exactement, c'est le sacrement de la joie. En tout cas, c'est peut-être, ce n'est pas le seul, mais c'est peut-être un des sacrements qui nous rend la joie la plus palpable. Et nous avons tous dans notre vie peut-être telle ou telle confession que nous avons vécue, où nous en sommes ressortis en goûtant cette joie, qui n'est pas forcément une joie qui nous fait sauter partout, mais une joie profonde, intérieure, de se savoir aimé par Dieu. Parce que comment ressentir l'amour de Dieu ? Peut-être que nous le ressentons de la manière la plus forte dans ce sacrement, parce que c'est là justement que le cœur de Dieu se penche sur notre petitesse pour nous élever vers lui. Et c'est un abîme que de penser qu'à chaque fois qu'on s'approche du Seigneur, il nous pardonne, sans condition. Quelle grandeur, quel amour que celui de Dieu pour nous faire vivre cela.
Alors merci Père de nous avoir partagé au fond cet amour pour ce sacrement que vous aimez tant donner. Et t'en recevoir.
Et t'en recevoir, exactement. Et depuis que je suis prêtre, une petite confidence, je ressens de plus en plus, parce que je suis ministre de ce sacrement aussi, le besoin de me confesser. Parce que si je me confesse, peut-être que j'ai beaucoup insisté sur ça, c'est pour moi, mais c'est aussi par charité pour mes frères, parce que en sortant du confessionnal, je serai davantage capable de les aimer, parce que rétabli dans l'amour de Dieu.
Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi l'émission Au Puits de Jacob, le sacrement du pardon, seconde émission. Comment se préparer à ce sacrement ?